la fierté de Montréal, se bâtit autour du sport. Le soccer, sport de tous les Montréalais. Ensemble avec le CF Montréal. L'après-match, avec Maxime Vanhoute à la description et Sidney Faureau à l'analyse.
En direct du Bank of America Stadium en Caroline, le CF Montréal s'incline ce soir par la marque de 2-0 face à Charlotte FC. Et du coup, est incapable d'officiellement se qualifier pour les éliminatoires de la MLS. C'est loin d'être perdu, par contre, pour le CF Montréal, ou plutôt loin d'être joué, alors que le CF Montréal a toujours sa destinée entre ses mains pour accéder au tournoi automnal dans un ultime match de saison régulière qui aura lieu dans 2 semaines au stade de Saputo face à New York City FC. Sid, c'est donc une séquence de 5 matchs sans défaite qui prend fin ce soir pour le bleu-blanc-noir. Et bien, de circonstance, ça a été dans les faits également son pire match de la séquence. C'est un CF Montréal qui est arrivé ce soir et qui a mis beaucoup de temps, une demi-complète avant de trouver un certain rythme. Le peu de rythme qu'on a trouvé a pris, ou plutôt n'a pas pu durer. Les réservistes qu'on a fait entrer dans le match ne sont pas non plus venus faire une différence, même que ça a semblé leur recasser le rythme à nouveau. Et bien, face à un adversaire qui est peut-être un peu meilleur que ceux des 4 derniers matchs, le bleu-blanc-noir n'a pas été en mesure de confirmer sa place en éliminatoire parce que, avec une défaite de 3-2 de Philadelphie ce soir, 1 point des Montréalais les aurait effectivement qualifiés.
Oui, c'est une occasion manquée de la part de Montréal. Et. C'est possible de perdre, évidemment, surtout contre un adversaire qui, à la base, avait 5 points de plus que toi au classement et qui joue à domicile. Ce qui va plus déranger, c'est la manière. Et, c'est certain qu'il y a une accumulation de matchs, mais on savait que derrière ces 2 semaines sans ton prochain match, et que finalement, c'est un peu que tu jettes toutes tes forces à la bataille. Tu allais prendre tes 2-3 jours de congé derrière pour récupérer. Et Montréal ne l'a pas fait. Montréal a une absence de jeu sur la première demi-heure qui, pour moi, le coûte ce match. Parce que... il n'y a pas grand-chose qui a été fait par Charlotte au final. Et c'est dommage que Montréal a mis autant de temps avant vraiment de rentrer dans la rencontre. On parle de fatigue, très bien, mais bon, quand ta deuxième mi-temps, d'un point de vue d'énergie, de course, d'intensité, de caractère, elle est meilleure que ta première, ne parle pas de fatigue. C'est comment tu as abordé le match qui est problématique. Elle est belle, l'excuse de la fatigue et du voyagement que tu aurais pu sortir avant le match. Mais quand tu regardes le match, quand tu regardes le contenu du match, tu as surtout des joueurs qui ont été un peu perdus, d'une part, sans pouvoir en discuter tactiquement, mais surtout des joueurs qui... selon moi, ont déjoué par leur approche du match attentiste, ou même on s'interrogeait sur une position très stérile du CF Montréal qui, finalement, lorsqu'ils ont été, surpris sur cette situation un peu litigieuse, elle n'a pas été en mesure de réagir. C'était un peu comme si le piège s'était renfermé sur eux-mêmes. Donc c'est surtout ça qui est dommage, et non en soi la défaite sur le terrain d'une équipe qui est... allez, plus performante que toi cette saison.
Aucune des courroies de transmission n'a semblé fonctionner ce soir. On n'a pas été capable de passer par la gauche. Je te parlais dans la dernière émission d'après-match de Jekyll Marshall-Rutty, dont l'acquisition n'était pas aussi convaincante que Caden Clark. Ceci étant dit, avant le match de ce soir, je n'avais pas non plus grand reproche à lui faire. C'est juste que ce n'était pas particulièrement étincelant. Ce soir, je l'ai remarqué pour toutes les mauvaises raisons, je trouve, le numéro 11 du CF Montréal. Raheem Edwards a pris un carton jaune rapidement dans le match, n'a pas non plus vraiment contribué. Duke et Clark n'ont pas non plus fourni cette courroie de transmission par le centre. Et ben c'est ça un peu là, qui a fait en sorte qu'on n'a pas eu de rythme. Le ballon s'est passé entre les 3 centraux en défense tout le long de la première demi. En deuxième demi, lorsque finalement, tu as remarqué qu'on a joué plus haut dans le bloc défensif, on était capable de couper beaucoup de passes, embouteiller Charlotte dans son territoire. C'est comme ça qu'on a eu nos meilleures occasions dans le match. Mais ça aussi, ça a été de courte durée. Et au final, aucun rythme s'est vraiment installé côté Montréalais.
Oui, mais cette partie justement sur du pressing haut, elle a duré un bon 20-25 minutes hein, sur la deuxième mi-temps. Je pense que lorsqu'on voit plusieurs statistiques avancées, Charlotte n'a pas fait grand-chose en deuxième mi-temps. À la fois la possession d'une part, mais là Montréal domine sur le nombre de tirs. Il y a qu'un seul tir cadré, c'est celui qui mène au but. Enfin deux tirs, pardon. Il y a celui qui est boxé par Sirois et pour le coup, Montréal a bien fait dans plusieurs reprises en deuxième mi-temps. Après, ce qui a manqué en première ou en deuxième, c'est la précision. La précision à la fois dans les passes, dans les contrôles aussi. Tu parlais de Marshall Routy, ce qui m'a frappé, c'est qu'à plusieurs moments où quand tu pouvais transmettre le ballon, il avait toute la misère du monde à le contrôler. Et la précision devant les buts. Parce que finalement, tu n'as qu'un seul tir cadré de l'ensemble du match du CF Montréal. C'est Marshall Routy qui, pour moi, aurait dû faire largement mieux sur cette situation. Donc, Montréal a manqué beaucoup de précision. Et je pense que ceci explique cela sur leur performance globale.
Tu as souvent parlé que dans le rôle central de la défense, Joel Waterman ne va pas apporter la même verticalité que Gabriele Corbeau. Ce soir, lorsque je parle des centraux là, qui se sont passés le ballon entre eux pendant toute la première demi, sont-ils à défaut là-dessus ou c'est les coéquipiers qui n'arrivaient pas à se démarquer? Comment tu regardes ça?
Joel Waterman a touché 161 fois le ballon. 161 fois. Et c'est pas Busquets Prime, Xavi Iniesta, le milieu de terrain de la Masia qui est en train de jouer sous le système de Pep Guardiola où on a 90% de possession du ballon et on est la meilleure équipe de tous les temps pour certains. 161 touches de balle pour Joel Waterman. Mais lâche la balle plus vite, plus tôt. Donne-la quand il y a une ouverture de la part de tes coéquipiers. Arrête! 161, c'est pas normal que Waterman touche autant le ballon. Et c'est là où cette lenteur qui caractérise les sorties de balles du côté du CF Montréal est incarnée par ce manque de verticalité apporté par Joel Waterman. Mais très bien, 95% de possession, j'ai fait 148 passes. Ok, félicitations. Mais on le voit que Montréal a une possession qui est stérile et qui part très souvent, trop souvent, à mon goût, de Joel Waterman qui monopolise le ballon.
Ça mérite d'être clair pour la façon dont on a pris possession du ballon et qu'au final, malheureusement, on n'en a pas fait grand-chose côté montréalais. Voici ce qu'on va faire. On va s'arrêter quelques instants. Au retour, on va vous présenter le point de presse de l'entraîneur-chef Laurent Courtois. On va poursuivre l'analyse de cette défaite du CF Montréal. Maintenant, on a deux semaines pour préparer la venue de New York City et le match sera crucial pour le CF Montréal puisqu'on a notre destinée entre les mains, mais il va falloir avoir un résultat fort probablement dans cette rencontre pour accéder aux éliminatoires de la MLS. Vous écoutez l'après-match du CF Montréal sur les ondes de BPM Sport. On revient dans quelques instants avec le point de presse de l'entraîneur-chef Laurent Courtois.
Vous écoutez l'après-match du CF Montréal.
BPM Sport.
De retour sur les ondes de BPM Sport à cette émission d'après-match du CF Montréal. Le CF Montréal qui s'est incliné par la marque de 2-0 face à Charlotte en Caroline. C'est donc le dernier match de la saison sera crucial et je suis curieux de t'entendre parce que Nathan Saliba était sous surveillance pour accumulation ouais, de cartons ce soir. C'était la même chose pour lui et George Campbell. Alors, avec un carton jaune ce soir, en théorie, Nathan Saliba devrait rater la prochaine rencontre du CF Montréal, la rencontre cruciale. Et tu l'as dit, lorsque les changements ont été effectués, Piet et Saliba sont tes deux joueurs qui sont, entre guillemets, assis dans leur position et qui, lors d'un match normal, là, devraient obtenir les 90 minutes, qui sont là match après match. Tu t'expliquais mal cette décision de Laurent Courtois de ne pas avoir sorti Saliba et garder Piet parce que, peut-être si vous venez de vous joindre à nous, là, donc en fin de rencontre, en quête d'un but, on a fait un ajout offensif, on a descendu Duke, on a descendu Saliba et on a sorti Samuel Piet en raison de la situation de carton de Nathan Saliba. Et est-ce que là, une demi-heure plus tard, après avoir regardé ça, as-tu toujours la même analyse et tu t'expliques mal cette décision de l'entraîneur qui met l'équipe donc en danger pour ce match ultime?
Alors, il y a un autre élément que j'ajouterais à cela, c'est la performance de Piet. Je pense que c'est important de mettre ça dans l'équation. Il jouait bien le capitaine et dans ce contexte-là, c'est vrai que ça fait 3 matchs que Campbell nous fait mentir sur l'idée qu'on a besoin parfois de protéger les joueurs et de les sortir, même si je pense qu'au Stade Saputo contre San José, il était sorti un peu plus tôt. Mais il est sous la menace d'un carton et a fait des matchs complets par la suite. Et ça s'est très bien passé pour Campbell. Donc tu me diras, c'est facile après coup de revenir sur la décision de Laurent Courtois. Néanmoins, tu sais que c'est un élément très important. Je pense que Campbell, même s'il fait extrêmement bien, t'as quand même des outils pour remplacer une suspension de Campbell. Donc, tu peux t'amener à risquer sans forcément que ce soit trop problématique. Mais qui va jouer à côté de Piet? Tu pourrais me sortir n'importe quel nom. C'est pas Saliba. C'est aujourd'hui la situation des milieux de terrain avec les départs de Chouanière, de Zouir, de Wanyama qui ne voyage pas. On sait très bien qu'il y a un trou dans ce secteur et des joueurs pourront faire, je te dirais, donner un coup de main parce que c'est vraiment ça qui va se passer. Mais tu te mets dans le trouble avec cette suspension-là. Donc dans ce cadre-là, lorsqu'il y a un choix à faire autour de la 70e minute entre les deux joueurs, je pense que protéger Saliba de lui-même ça aurait été, je pense, plus judicieux.
Ouais, parce qu'en plus, c'est un bon élément que tu amènes. Est-ce qu'on va baisser Duke sur le terrain, faire embarquer Mahala ou Poku comme partant? Peu importe. En plus, c'est que si tu défais ce trio, la chimie, du moins à domicile, semblait bien établie entre les trois. Tu vas peut-être. Autrement dit, c'est pas simplement le remplacement de Saliba dans la formation, c'est également l'effet domino que ça amène.
Oh non, mais il n'y a personne pour les remplacer. À chaque fois, on a patché. On a monté Waterman, on descend Duke.
On a même descendu Clark une partie.
C'est pas. Edwards aussi s'y est collé. La réalité, c'est que c'était deux titulaires indiscutables avec des options très temporaires sur le banc ou sur le terrain. Mais ce n'est pas, malheureusement, des joueurs qui vont être à l'aise pendant 90 minutes pour les remplacer et faire ce qu'eux font très bien.
On va se rendre donc dans les prochaines secondes du côté de Charlotte où va tenir son point de presse l'entraîneur-chef Laurent Courtois. Donc, on s'y rend à cet instant, le point de presse de l'entraîneur-chef Laurent Courtois.
Question de Cinefo.
Bonjour Laurent, je ne sais pas si tu as revu les images du premier but. J'aimerais avoir ta... Pardon ?
Pas encore.
Non, pas encore. Bon, j'aurais aimé avoir ta lecture sur le tac de Swiderski qui ramasse un peu tout. On va passer. Est-ce que tu peux nous parler un peu des problèmes qu'a posé cette équipe de Charlotte et comment tu t'es ajusté, parce que la deuxième mi-temps était plus intéressante de la part de tes gars.
Non, une équipe qui a vraiment hésité à sortir sur nos joueurs, très, très calculatrice pour sortir de leur bloc, qui est très bien organisée. On a été un petit peu imprécis en première mi-temps, par à-coup. On a eu malgré tout quelques occasions, donc on a été un petit peu plus agressif et avec un petit peu plus de personnalité, j'ai envie de dire. Mais c'était compliqué parce que on sait qu'aussi ils voulaient tendre des pièges et contre-attaquer. Je pense qu'on a fait des ajustements intéressants de deuxième mi-temps. Il a manqué un petit peu de précision technique d'un peu de l'histoire de ce qu'on fait cette année. Manque de, on va dire, de reconnaissance pour créer des situations de centre ou dans la boîte contre un bloc très compact et très bas. Donc, mais j'ai pas grand chose à reprocher à mes gars. T'as tout dit sur le premier but et. Et y avait de quoi faire, mais c'est une belle équipe en face et j'ai pas grand chose à reprocher à mes joueurs.
Simon Servin.
Bonsoir Laurent. Évidemment, vous n'avez pas réussi à sécuriser votre place en série aujourd'hui, mais vous avez encore le plein contrôle de votre destinée. Ça avait l'air de quoi un peu dans le vestiaire? Quel genre de message tu as donné aux joueurs par rapport à cette situation-là en ce moment?
Déception parce qu'on croyait vraiment que c'était un. Les gars ont confiance en eux, ils se sentent bien et ils pensaient vraiment faire un autre résultat, surtout quand on voit les conditions qu'on a concédé le premier. Là aussi, la satisfaction et la fierté, je leur ai dit, de ce qu'ils ont essayé de produire, c'était très ambitieux et j'étais fier d'eux. Et puis que notre destin est entre nos mains devant nos partisans, donc ça va être intéressant.
In English, John Steele.
Hello, Laurent. Thanks for doing this. Just
John?
how exactly did Charlotte frustrate you guys defensively tonight?
Really compact and centrally, trying to really set traps in order to lock us and turn the ball over centrally the way they want. We made a few adjustments, and the second half was a little bit more controlled, I would say. We were not able to be we are not able to be decisive, but like I said in French, I was overall proud of the guy's performance and what they try to produce. And last game home, we can do the job in front of our fans. So it's up to us.
Jean-François Théodonio.
Bonjour Laurent, merci pour ton temps. Celui-ci était titulaire ce soir. Qu'est-ce que tu as pensé de son travail et peut-être qu'est-ce qu'il doit faire pour gagner ta confiance pour être titulaire plus régulièrement?
C'est un petit peu plus de précision entre les lignes, plus d'intensité dans les courses derrière la défense ou défensivement. Mais il a quand même réussi à se créer une ou deux situations intéressantes. Il est encore très jeune et une grosse marge de progression.
On revient avec une
Merci.
autre question de Sydney.
Ouais, Laurent, j'ai une question par rapport à un de tes choix. Bon, c'est toujours très facile après coup, lorsque tu sais c'est quoi le scénario, mais Nathan Saliba prend un carton jaune et donc est suspendu pour le prochain match. Toi, à la 70e, où tu as le choix entre Saliba et Piet, est-ce que ça te traverse l'esprit de protéger Nathan un peu comme Campbell qui joue sous une suspension depuis 3 matchs et qui arrive à passer entre les gouttes, tu te dis que il n'y a pas à penser à ce scénario-là?
Si, on pense à tous les scénarios. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça, c'est pas l'idéal, mais on a pesé le pour et le contre et on a privilégié un scénario. Et malheureusement, c'est celui que tu décris. C'est comme ça.
Est-ce qu'on a une dernière question pour Laurent ce soir? Non? Merci Laurent. Merci. Bon retour.
Merci.
Voilà pour le point de presse de l'entraîneur-chef Laurent Courtois. Donc, on sent Laurent Courtois à l'aise avec le pari qu'il a pris. Parce que au final, si on lit entre les lignes, c'est ça. Oui, j'en étais conscient. J'ai pesé le pari, puis malheureusement, le pari n'a pas rapporté.
Oui, pour prendre ces mots, c'est comme ça. Et effectivement, comme je le dis dans ma question, parce qu'il faut aussi le reconnaître, c'est facile après coup, une fois que tu
Ouais.
as un scénario, de dire
Nathan
attends,
Saliba fournit une passe
ouais.
décisive sur un but égalisateur, puis on n'en
Voilà,
parle pas.
on a une autre discussion, mais
Exact.
bon, la discussion qu'on a dans la réalité, c'est que Saliba est suspendu et qu'on aura le temps de lui parler des options. Hein. Le match dans New York est quand même dans 2 semaines, on y reviendra. Mais effectivement, ça a été pris en considération finalement, ça n'a pas porté fruit. Donc voilà, c'est le lot de saisons et de toutes ces décisions que peut prendre un
Ouais.
entraîneur.
On pèse le pour et le contre. J'imagine que le pour, c'est un joueur là, qui t'offre un peu plus d'atouts offensifs pour aller confirmer ta place en éliminatoire. Et peut-être que le risque que tu prends, si tu dis, bon, mais de toute façon, ce match-là ne sera pas, n'aura pas d'impact pour ou contre les éliminatoires. Et évidemment, le contre, considérant les joueurs disponibles sous sa main. Personnellement, il me semble que c'est un gros compte quand même de ne pas avoir Saliba dans ce match décisif. Mais bon, et Laurent Courtois a été clair. Là, on a décidé que le risque en valait la chandelle du côté du CF Montréal. On va s'arrêter quelques instants. Au retour, conclusion, mot de la fin de cette émission d'après-match.
Vous écoutez l'après-match du CF Montréal.
De retour sur les ondes de BPM Sport pour cette émission d'après-match du CF Montréal. La séquence de matchs sans défaite du CF Montréal qui a pris fin ce soir. Défaite de 2-0 du côté de Charlotte. Ce soir, Sid, littéralement personne ne l'a mis dedans, mais au sens de nos honneurs et prix citron d'après-match, ce soir, il l'a mis dedans, joueur du match pour le CF Montréal.
Campbell, ouais. Encore une fois.
Deuxième match de suite, d'ailleurs.
Oui, deuxième match de suite. C'est drôle parce que je pense que le dernier match, je l'ai donné parce que je pensais que jamais pour lui redonner et il me fait mentir. Match qui a commencé doucement parce que je pense qu'Abada avait pris un peu l'ascendant sur à quelques reprises, notamment sur le corner qui était mal défendu. Bon, en tout cas, corner qu'il avait concédé. Mais après, par la suite, j'ai trouvé vraiment impérial. Campbell, qui a été encore une fois un joueur très 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 solide. C'est lui qui mène dans le nombre d'actions défensives créées, 5. Donc, un match très intéressant de Campbell.
Ce soir, il ne l'a pas mis dedans, mais il peut dormir sur ses deux oreilles.
Alors, dormir sur ses deux oreilles, c'est peut-être un peu fort, mais j'ai deux joueurs dans cette catégorie-là. J'ai Piet et Sunusi. Je vais le donner à Sunusi puisque je ne suis pas sûr qu'on va le revoir encore sur les terrains, malheureusement, l'attaquant nigérian. Mais je trouvais que pour un joueur qui a été mis au placard aussi longtemps et qui devait montrer au coach sa valeur, sa capacité d'apporter dans un match, il a été individuellement intéressant. Néanmoins, je trouve que il a été tactiquement un peu moins intéressant et ce n'est pas vraiment de sa faute. C'est un profil qui est moins compatible avec Duke et Clark, et on l'a vu, qui sont naturellement, qui se sont très éloignés de lui. Et lorsque Martinez est arrivé, ils se sont naturellement très rapprochés de Martinez. Donc ça, il en a souffert, Ibrahim. Mais je trouve que dans les ballons qu'il a pu négocier, avec un manque de précision évident dans les tirs, mais je trouvais que qu'il a fait un match vraiment prometteur. Par exemple, bon, l'entrée de Coccaro a été beaucoup plus anecdotique, par exemple.
Ce soir, il l'a mis sur la barre.
Il y a pas mal de joueurs qui sont passés à côté de leur match. Je vais le donner à Saliba, dont j'ai vraiment pas du tout aimé le carton. Je pense qu'il prend son carton sur Agüemang. Ouais, il prend son carton sur une faute sur Agüemang dans une situation où je pense qu'il n'avait pas du tout à le faire. Et globalement, ça n'a pas été un match où il a vraiment su impacter. On recherche un petit peu justement les sensations qu'il nous avait donné, notamment avec ce beau but contre New England, ça passe décisive après dans le match suivant. Donc c'était un match compliqué de Saliba. Il a mis un peu trop de temps, selon moi, à être plus haut sur le terrain et à aller gratter des ballons comme il a pu le faire un peu plus en deuxième mi-temps.
Et ce soir, il a raté son match, il l'a mis chez les spectateurs.
Il fallait avec Marshall Routy, tiens. Je pense que Edwards est un peu la cible facile, mais Marshall Routy.
Non, je suis d'accord.
Je trouve que voilà, ça manque de tranchant. C'est un joueur qui a plus d'outils dans son sac que Juan, dont qui est un peu ce qu'on appelle dans le jargon un tout droit. Mais ça fait plusieurs matchs qu'on s'attend à plus de la part de Marshall Routy, plus décisif, plus incisif, tout simplement. Je trouve que ça me manque un peu de créativité, alors qu'il a des outils, ça se voit que c'est un joueur qui est plus polyvalent dans le profil qu'un Juan. Mais Juan savait faire une seule chose, mais il la faisait très très bien quand même. Donc je pense que la comparaison est de plus en plus à son désavantage. Donc on va aller avec Marshall Routy, mais Edwards aurait pu vraiment facilement être choisi.
Prochain match décisif pour la saison du CF Montréal, c'est dans 2 semaines. Pause la semaine prochaine. 2 semaines pour penser les bobos, recharger les batteries et accueillir New York City FC avec à l'enjeu pour le bleu-blanc-noir une place en éliminatoire au match suicide de 2024. On peut encore le jouer à domicile, on peut encore le jouer sur la route. On n'a pas perdu le plein contrôle de notre destinée côté montréalais ce soir. On a malheureusement perdu le plein contrôle quant à la 8e position. Mais une victoire qualifierait le CF Montréal et même un verdict nul pourrait fort probablement qualifier le CF Montréal, quoique en vertu du fait qu'on a notre destinée, même une défaite, advenant des résultats favorables partout, mais là, ça, c'est vraiment mettre son sort entre les mains du destin, pourrait envoyer le CF Montréal en éliminatoire après les avoir ratés en 2023. C'est donc le 19 octobre prochain au Stade Saputo. Notez bien l'heure. 18h, émission d'avant-match, 17h30 sur les ondes de BPM Sport en cette journée de décision en MLS. Donc, une rencontre un peu plus tôt au Stade Saputo. On y sera et on vous y attend, bien sûr, sur les ondes de BPM Sport. Mon nom est Maxime Vanout, en celui de Sid Fauveau à l'analyse et d'Alexis Lavoie-Martel à la mise en onde ce soir. Merci d'avoir été de nôtre ce soir, tout le monde. Prudence sur les routes, si c'est là que vous êtes, on vous veut en un morceau et à l'écoute du soccer du CF Montréal sur les ondes de BPM Sport. Et on se retrouve le 19 octobre prochain, 17h30, avant-match de ce match de décision pour la saison 2024 du CF Montréal. Bonne soirée, tout le monde.